Je crois que plus encore que la dichotomie entre matériel et immatériel, ce que je trouve très difficile à penser avec le numérique, c'est le mélange de légèreté et de lourdeur. La légèreté, ce serait les logiciels, les microprocesseurs minuscules qui font des milliards de calculs, les données qui font le tour de la planète en quelques millisecondes, nos téléphones qui tiennent dans nos mains, nos ordinateurs qui ne pèsent plus rien, etc. Et puis, la lourdeur, ce serait les matériaux qu'il faut extraire et traiter pour fabriquer ces téléphones et ces ordi, les usines où on les assemble, leur recyclage. La lourdeur, ce serait aussi les data centers gigantesques qui stockent les données, l'énergie qu'ils consomment, les chaînes de satellites Starlink qui sont apparues dans le ciel, etc., etc. Et je trouve ça très difficile de penser les deux en même temps. Et pour moi, il y a une infrastructure en particulier qui concentre cette difficulté, ce sont les câbles de fibre optique. Parce que à la fois, ils sont minuscules par rapport au nombre et à l'importance des données qu'ils transportent, et à la fois, il faut quand même les poser, creuser des tranchées pour les enfouir, les entretenir, et ça c'est un énorme bins. Et c'est presque encore plus frappant avec les câbles sous-marins. C'est par eux que passent plus de 90% des données qui traversent les continents. C'est sur eux, en gros, que repose la nature vraiment mondiale de l'Internet. Pour les poser et les entretenir, on doit construire des bateaux qui sillonnent les mers, on fabrique des robots capables de creuser des tranchées à 3000 mètres de profondeur, etc. Et en même temps, aujourd'hui, il suffit de 450 câbles à peu près, 450 câbles intercontinentaux pour transporter les données. Enfin, c'est vraiment pas grand-chose. D'autant qu'ils sont pas bien gros ces câbles comparés à des conduites de gaz ou à des autoroutes. 450 petits câbles pour transporter toutes nos données numériques, si on les rapporte à la taille des mers et des océans, c'est ridicule. On pourrait en poser des milliers en plus que ce serait pas un problème. Enfin, ça c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je discute avec Clément Marquet. Parce que le truc auquel j'avais jamais réfléchi, c'est à l'arrivée des câbles sur la côte. Une fois mis de côté le romantisme des navires câbliers et des opérations au milieu des océans, qu'est-ce qui se passe quand on est au bord des littoraux? Quand il y a plein de bateaux, des législations territoriales, des espèces à protéger, quand il faut interconnecter le câble sous-marin avec ceux qui transporteront les données jusqu'à nos ordinateurs.
Le code a changé.
Clément Marquet, son truc, au départ, ce sont les centres de données, notamment ceux de la Seine-Saint-Denis, où on en a installé beaucoup, sans grande considération pour l'aménagement du territoire, les questions énergétiques, écologiques et tout ça. Un jour, avec un collègue du nom de Loucellard, il a décidé d'aller voir les centres de données marseillais. Mais une fois là-bas, on leur a dit « Ouais, c'est intéressant les data centers à Marseille, mais il y a plus intéressant ici, ce sont les câbles sous-marins. » Et ils ont tous les deux réorienté leurs recherches. Voilà, ça c'est un autre truc qui me fascine dans le numérique et qui est pas facile à penser non plus. Un lieu stratégique pour les infrastructures numériques, c'est invisible, ou presque. Alors qu'un lieu stratégique pour les industries classiques, ça se voit. Ça produit des gares, des usines, des entrepôts. Pour le numérique, ça se voit beaucoup moins. L'exemple de Marseille est frappant. Marseille, c'est une des villes les plus importantes au monde pour le transit intercontinental des données numériques. La 7e ville la plus connectée au réseau international. Bientôt la 5e, dit-on. 16 ou 17 câbles intercontinentaux qui arrivent à Marseille et qui vont vers l'Afrique, le Moyen-Orient, le Pakistan, la Chine, etc. Et il y en aurait une trentaine d'autres en projet. Marseille, donc, est plus importante pour l'Internet mondial que pour le trafic maritime mondial. Et pourtant, pas grand monde ne le sait, les Marseillais y compris. Ça ne crée aucun imaginaire. Parce que ça ne se voit pas. Qu'est-ce que c'est que 16 ou 17 pauvres câbles qui arrivent sur le littoral marseillais? Qu'est-ce que c'est que 16 ou 17 pauvres câbles par rapport au moindre porte-conteneur ou au moindre ferry? Qu'est-ce que c'est 16 ou 17 pauvres câbles par rapport à un port? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas rien. Et c'est ça le principal enseignement du travail de Clément Marquet et Loucellard. Ça engage plein de choses, un câble intercontinental qui arrive à Marseille. Ça engage des entreprises, des institutions, des associations, des corporations, ça engage des matériaux, des objets, des gens, et même des êtres vivants autres que nous. Ça engage la géographie, mais ça engage aussi l'histoire. Bref, un câble qui arrive, ce sont des enjeux écologiques, économiques, politiques, géopolitiques, sécuritaires qui s'entrecroisent, qui parfois convergent, d'autres fois se contredisent, et tout ça, on l'ignore presque totalement. Alors, j'ai proposé à Clément Marquet de venir me raconter. Justement, c'est comme ça qu'on a commencé notre conversation avec Clément. Je lui ai demandé de me décrire ce qui se passe quand un câble sort de l'eau à Marseille.
Une fois que le câble arrive à terre, il va devoir rejoindre ce qu'on appelle une chambre d'atterrage, qui va être un endroit où va se faire la jonction entre la partie maritime et la partie terrestre du câble. À Marseille, les chambres d'atterrage historiques, elles sont sous les baigneurs, en fait, donc sur les plages, en fait, hein, les plages du Prado, elles accueillent plusieurs chambres d'atterrage. Et lorsqu'on connaît un tout petit peu, mais ça ne demande pas beaucoup de recherche, on arrive à les identifier, parce qu'il y a des plaques de télécommunication, en fonte qui sont posées. Et puis ensuite, on peut réussir même à suivre les réseaux jusqu'au centre de télécommunication qui traite ces échanges. Donc historiquement, c'est Orange qui est à 1,3 km, il me semble, quelque chose comme ça, des plages. Qu'on remonte une longue avenue, on arrive devant ce bâtiment qui ressemble à un immeuble classique. Et en fait, c'est là qu'une très très grande partie du trafic entre l'Europe et le Moyen-Orient est traité. Donc ça veut dire que là, il y a les routeurs, donc les ordinateurs qui servent à dispatcher l'information qui sont situés dans cet endroit-là. Donc après, bon, ça part jusqu'à nos ordinateurs ou vers d'autres centres de données, etc., à Paris, bref.
D'accord, c'est assez marrant cette histoire des plages du Prado, les données qui arrivent du monde entier et qui, avant de remonter vers Paris, Francfort ou Amsterdam, passent sous le cul des baigneurs qui n'en savent rien. Mais bon, la question c'est pourquoi les câbles arrivent sur les plages du Prado ? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir en arrière et considérer en quoi consiste un projet de câble sous-marin.
Quand on a un projet de câble qui arrive, on va avoir, alors historiquement, des consortiums avec des grands acteurs de la télécommunication. Ça coûte extrêmement cher, donc ils vont se mettre à plusieurs. Et puis chacun va gérer les parties nationales qui l'intéressent. Donc souvent, Orange va gérer l'arrivée des câbles en France. Cette répartition, elle est très liée aux contraintes administratives nationales qui dépendent dans chaque pays. Chaque pays a ses spécificités. Et historiquement, comme les grandes boîtes de télécommunication sont en fait des opérateurs nationaux, elles connaissent assez bien les réglementations, donc elles ont tendance à prendre en charge ces parties. C'est-à-dire à définir l'arrivée, la route qui va être suivie par le câble une fois qu'il entre dans les eaux territoriales françaises et obtenir, faire des études d'impact environnemental, éventuellement des enquêtes publiques, donc obtenir les avis des différentes parties prenantes concernées par l'arrivée du câble. Donc ça peut être les pêcheurs, les parcs naturels, différents usagers de la mer. Et ils vont comme ça tracer la route qui sera suivie par le câble en évitant tout un ensemble d'obstacles. Donc historiquement, ces câbles-là, ils passent par le parc national des Calanques, ce qui peut être assez étonnant, mais en fait, il y a un arrêté préfectoral qui définit une zone de protection des câbles dans le parc national des Calanques depuis au moins les années 70, si ce n'est avant. Et en fait, cette route-là est très très bien connue, donc elle va être privilégiée par les opérateurs. Donc ils suivent cette route qu'ils connaissent très bien, ils prennent une distance de sécurité les uns par rapport aux autres, il y a des normes internationales qui définissent ça, puis ils vont éviter les objets un peu risqués.
Des objets risqués, c'est-à-dire ?
Alors, il y a plusieurs types d'objets risqués. Il y a les objets d'intérêt écologique, c'est-à-dire, on va dire, des plantes. Donc, dans le parc national des Calanques, particulièrement, il y a les herbiers de Posidonie, on y reviendra peut-être plus tard. Mais il y a également tout ce qui peut être de l'ordre du patrimoine. Des épaves, en fait, des épaves de bateaux, des voitures qui seraient sous l'eau, des carcasses, éventuellement des objets ayant un risque d'explosion, des munitions de la Seconde Guerre qui n'auraient pas explosé. Et donc l'enjeu, ça va être de contourner tous ces obstacles pour éviter d'avoir de l'archéologie sous-marine qui va se mettre en place et faire des retards du coup dans la livraison du câble. Et donc optimiser la route, sachant qu'on ne peut pas non plus faire une route qui serpenterait de trop parce que l'utilisation du domaine public maritime va être taxé. Donc il y a une redevance à l'État pour passer le câble qui est au kilomètre. Et par ailleurs, il faut rester dans des zones de droit qui éviteraient, par exemple, que des pêcheurs ne passent au-dessus des câbles ou que d'autres usagers de la mer risquent d'abîmer les câbles. Donc il y a tout cet enjeu-là de diplomatie de l'arrivée du câble sous-marin.
Diplomatie, tu m'étonnes. Parce que si je résume les acteurs à prendre en compte dans le choix d'une route, il y a les entreprises qui possèdent le câble. Il y a aussi l'entreprise qui s'occupe de sa connexion au réseau terrestre, qui n'appartient pas forcément au consortium qui possède le câble. On pourrait considérer aussi que les obstacles sont des sortes d'acteurs, les carcasses, les épaves, etc. Mais il y a aussi les acteurs étatiques, la préfecture, l'administration fiscale qui taxe l'utilisation du domaine maritime. Et puis, il y a les acteurs qui sont plus directement liés à la mer, les pêcheurs, le parc national des Calanques, les herbiers. Donc oui, diplomatie. Mais dans un sens très étendu, un peu comme le philosophe Baptiste Morisot parle de diplomatie dans les rapports entre les humains et les loups. Une diplomatie qui met en jeu des acteurs de types très différents. Tout ça pour faire arriver un câble. Mais justement, la question que je me pose, c'est si cette diplomatie n'est pas la conséquence d'une spécificité de ce câble, sa vulnérabilité. Et du coup, je demande à Clément si un câble de fibre optique, c'est vraiment si fragile ?
Alors, c'est ultra fragile. En tout cas, c'est une très, très grande crainte pour l'industrie. Alors, avant tout, un câble, c'est de la fibre optique. Donc, c'est quelque chose qui est fin comme des cheveux, entouré par du cuivre et enrobé dans du plastique. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais pour le dire vite, ça fait la taille d'un tuyau d'arrosage et ça, ça donne un câble sous-marin de télécommunication. Donc, du coup, c'est très vulnérable. Une fois qu'on s'approche des littoraux, on va protéger ces câbles. Donc, on peut les protéger d'abord avec des gaines de plastique, et puis ensuite, on va les protéger avec des torons d'acier, donc un toron d'acier, une double armure de torons d'acier. Donc, à fur et à mesure que le câble se rapproche de la côte, généralement, il est épaissi par ses protections, par ses armures. La principale menace, ce sont les ancres et surtout les filets dragués par les navires de pêche qui vont arracher les câbles et du coup causer des interruptions éventuelles ou en tout cas des câbles endommagés.
Là, j'interromps Clément parce que je comprends un truc qu'il a rapidement dit un peu plus tôt. L'importance de l'arrêté préfectoral des années 70 qui a constitué le parc national des Calanques comme une zone de protection des câbles. Parce que si le principal risque pour les câbles quand ils arrivent près des côtes, ce sont les ancres et les filets, il vaut mieux qu'ils passent dans des espaces où il n'y a pas trop de bateaux, de pêche ou de plaisance. Et ce qui est marrant, c'est que là, on observe une convergence d'intérêts entre la nature, puisque la première vocation du parc national des Calanques, c'est de protéger la faune et la flore, et l'intérêt des câbles. Mais il y a un fait marrant. Le parc national des Calanques, il a été créé en 2012, alors que le décret de protection des câbles sous-marins, il date des années 70. Ce qui veut dire qu'on s'est d'abord inquiété de protéger les câbles, qui à l'époque devaient être des câbles en cuivre pour le téléphone, avant de s'inquiéter de la protection de la faune et de la flore. C'est compliqué. Mais revenons à notre câble de fibre optique et à la nécessité de le protéger quand il arrive près des côtes. On l'entoure donc de torons d'acier. Avec quelles conséquences ?
Ça veut dire qu'il est alourdi, c'est plus un tuyau d'arrosage, c'est quelque chose d'un peu plus épais et du coup d'un potentiellement plus menaçant. Le littoral, c'est aussi l'endroit où il y a la plus importante biodiversité, notamment en termes de plantes, puisqu'on est aux alentours de Marseille et qu'il y a ces herbiers de Posidonie. Donc c'est des plantes marines, ce ne sont pas des algues, mais qui offrent des protections très importantes pour les poissons et tout un ensemble de biodiversité, et qui constituent aussi aujourd'hui des puits de carbone, donc qui sont doublement protégés à la fois pour la biodiversité et pour la captation carbone. Et le problème des câbles, c'est quand s'ils sont simplement posés sur les herbiers et qu'ils sont mus par le courant, et il se trouve qu'à proximité du littoral, c'est là aussi où les courants sont les plus forts dans leur capacité à remuer ce qui se passe au fond de la mer, le câble va commencer à bouger. Et en bougeant, il abrase le sol, et en abrasant le sol, il peut abraser les herbiers de Posidonie.
Ok, donc ça se complique encore. Parce que toute une série de nouveaux personnages ont fait leur entrée dans notre histoire. La houle, les courants marins, et puis toutes les espèces qui dépendent des herbiers de Posidonie. Parce que, comme l'a rapidement expliqué Clément, les herbiers de Posidonie, ils nourrissent plein de poissons, mais ils leur servent aussi de lieu de ponte, et de refuge pour leurs juvéniles. Or, l'abrasion produite par le câble alourdi, elle est une menace pour les herbiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là où je voyais tout à l'heure une convergence d'intérêts entre le câble et l'écosystème sous-marin, il y a des contradictions. Des fragilités concurrentes, on pourrait dire. La fragilité du câble, qui nécessite de le protéger, donc de l'alourdir, et qu'il transforme en menace pour une autre fragilité, celle des herbiers de Posidonie et de l'écosystème qui dépend d'eux. Finalement, je pense que le câble et les herbiers, ce sont peut-être les deux entités héroïnes de cette histoire. Mais bon, alors, comment résoudre cette concurrence des fragilités entre ces deux entités héroïnes ? Il y a un moyen tout bête, ancrer le câble dans le sol pour éviter qu'il ne bouge. Sauf que, quand on entre dans le détail, c'est pas si simple.
Il faut utiliser des ancres spéciales, s'adapter à chaque substrat, il faut glisser le câble sous les frondes des herbiers. Donc c'est tout un enjeu assez complexe, assez délicat dans la pose du câble pour faire en sorte que on ne va pas créer des vulnérabilités sur ces herbiers. Lorsque ces ancres elles sont mal posées ou lorsqu'on n'a pas utilisé la bonne ancre par rapport au bon substrat, il y a des risques que la houle simplement finisse par arracher l'ancre et du coup que le câble puisse se remettre à bouger et éventuellement du coup à devenir une menace pour l'herbier. Il y a aussi d'autres enjeux dans la fin de vie des câbles. Quand on enlève un câble qui a été posé et qui a été, colonisé par les herbiers de Posidonie, c'est-à-dire que finalement le câble est bien posé, dans ce cas-là la plante se développe, finit par enrober le câble, lui fournit une sorte de nouvelle protection, ou en tout cas elle ne se fait plus détruire par le câble. À ce moment-là, Le risque d'enlever le câble, c'est de détruire la plante, ce qu'on ne veut pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le câble à l'entrée et à la sortie de la plante, et puis on va ancrer le câble à nouveau pour éviter que la houle n'arrache les plantes.
Ah, nouveau personnage, les ancres, et même les différentes sortes d'ancres, qui dépendent d'autres nouvelles entités que sont les différents substrats marins sur lesquels va passer le câble. Et là, dans ce que dit Clément, on entrevoit la possibilité d'une harmonie. Si le travail est bien fait, si le câble est bien ancré et que la maintenance est bien faite, il peut y avoir une coexistence vertueuse entre le câble sous-marin et les herbiers de Posidonie. Une sorte de protection mutuelle qui pourrait durer quand le câble ne sert plus. Est-ce que j'ai raison d'envisager la possibilité de cette belle histoire?
Tout à fait, c'est ce qui est très mis en avant notamment par l'industrie du câble sous-marin. C'est de dire, on est tellement pas nocif pour l'environnement, on est tellement neutre, que lorsqu'on passe bien et qu'on pose bien nos câbles, ils sont complètement colonisés par la nature. Il faut voir que ces câbles, ils sont prévus pour rester autour de 25 ans actifs, c'est-à-dire pendant 25 ans, il y a du transit de données. Alors on observe que les évolutions technologiques font que ça dure en fait un peu moins longtemps, mais donc ils ont tout le temps d'être colonisés par différents types de vivants. Il y a même des cabinets de consultants dans l'île de Man, donc il y a une île entre l'Écosse et l'Irlande, qui reçoit beaucoup de câbles sous-marins, qui est une île dans laquelle il y a développement très actif de la pêche aux coquilles Saint-Jacques. Et il se trouve que pour protéger les coquilles Saint-Jacques, il y a des projets d'essayer de faire en sorte qu'elles s'établissent là où on fait arriver des câbles, de sorte à ce qu'il y ait à nouveau une double protection entre les câbles sous-marins et les coquilles Saint-Jacques.
Ah bah ouais, suis-je bête. Les personnages dépendent des lieux. Si on quitte Marseille pour l'île de Man, ce ne sont plus les herbiers de Posidonie qu'il faut prendre en considération, mais les coquilles Saint-Jacques. Bon, néanmoins, on pourrait se dire que c'est là une belle histoire. Une histoire de coexistence bénéfique entre l'infrastructure technologique et la nature, donc entre les acteurs de tout type qui sont concernés. Le câble est délicatement posé sur les herbiers, il est bien ancré, il est colonisé par la nature qui à son tour le protège tout en profitant du câble, au point qu'on le laisserait quand il ne sert plus à rien. Tout le monde serait content. Cela dit, pendant qu'il me racontait ça, et notamment quand il évoquait les coquilles Saint-Jacques de l'île de Man, Clément avait un petit sourire en coin. Alors mon hypothèse pour expliquer ce sourire, c'est que l'industrie a beau jeu de mettre en avant la coexistence vertueuse du câble et des écosystèmes, mais bon, ça fait quand même du dérangement tout ça.
C'est l'alerte qui a été posée par le Pacte national des Calanques, de dire, oui, on a des exemples, tout un ensemble d'exemples de câbles qui cohabitent assez bien avec les herbiers, il ne faudrait pas les découper n'importe comment, il faut prendre soin de comment on va gérer la fin de vie de ces câbles. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a 8 câbles supplémentaires, 10 câbles supplémentaires qui arrivent et que l'herbier devient strié par des câbles de partout qui arrivent sur une temporalité assez proche? Est-ce que ça va être bien absorbé? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Donc il y a tout cet enjeu de la temporalité à laquelle ces choses se font et puis après des activités, des bateaux qui circulent pour poser les câbles, pour assurer les opérations de maintenance, des risques d'erreur, d'encre mal posée, etc. qui peuvent quand même augmenter les fragilités d'une espèce qui est relativement vulnérable et qui a connu une très forte dégradation dans les années 60-70. Donc voilà, il y a tout cet enjeu de protection. Et je souriais aussi parce que sur l'île de Man, il y a tout cet argumentaire sur la cohabitation entre les coquilles Saint-Jacques et les câbles sous-marins, mais il y a aussi, à l'occasion de certaines arrivées de câbles, des tonnes et des tonnes de coquilles Saint-Jacques qui ont été déplacées justement pour les protéger des travaux de pose du câble qui, là, nécessitaient plus que de simplement poser le câble, de l'ensouiller, donc ça veut dire de le creuser une tranchée, de passer le câble dedans pour vraiment le recouvrir ensuite et le protéger contre toute activité. Et à ce moment-là, la question de la protection et de l'équilibre, elle est plus discutable.
Ça m'a fait un peu rigoler, mais c'était un rire jaune. Parce que au moment où on pouvait apercevoir la possibilité d'une harmonie entre tous les personnages de notre histoire, paf, on s'aperçoit qu'en fait, les équilibres sont hyper fragiles et menacés par la multiplication des câbles que la numérisation du monde rend nécessaire. Zut. Mais tout à coup, j'ai une illumination. Clément parlait de l'ensouillage des câbles qui arrivent à l'île de Man. Pourquoi on n'ensouillerait pas les câbles qui arrivent à Marseille et traversent le parc des Calanques?
L'ensouillage, c'est une pratique habituelle de la protection des câbles sous-marins. Seulement, on peut les ensouiller que sur des fonds de mer ensablés. Donc ça veut dire que lorsqu'on arrive sur de la roche, on ne va pas casser la roche pour creuser une tranchée. Enfin, ça s'est fait par le passé, mais ce sont des choses qu'on évite de faire maintenant. Donc, à ce moment-là, on laisse le câble sur la roche. Et si on ensouillait le câble lorsqu'on passe au travers des herbiers, à ce moment-là, on détruit l'herbier. Parce que l'ensouillage, c'est basiquement creuser une tranchée de 60 à 120 cm de profondeur et passer le câble dedans.
C'est sûr que si j'avais vraiment su en quoi consiste l'ensouillage, j'aurais peut-être évité de poser ma question débile. Mais au moins, là, on est certain que c'est pas une solution quand on arrive près des côtes. Alors, puisqu'on en est au moment des questions débiles, j'en ai une autre. Dans ces câbles fibre optique, il n'y a pas de l'électricité qui passe. Et si tel est le cas, ça pose pas de problème ?
Le câble sous-marin, il est donc entouré d'une fine gaine de cuivre qui permet de faire circuler un signal électrique jusqu'au répéteur qui réamplifie donc la lumière qui traverse la fibre optique, les échanges de données, jusqu'au répéteur suivant, etc., qui sont donc sous l'eau et doivent être alimentés électriquement. Mais ça représente très très peu d'électricité, tout ça. À la différence d'autres types de câbles qui relient en fait les éoliennes offshore, par exemple, avec les terres, qui eux sont l'objet de beaucoup plus de débats. L'enjeu, c'est l'électromagnétisme, en fait, dégagé par la très haute tension, qui peut hypnotiser en fait des espèces qui tout à coup se retrouvent à errer le long du câble.
Ah ouais,
parce qu'elles sont complètement captées par l'électromagnétisme. Mais... du câble. Du coup, il faut isoler le câble de sorte à éviter que des espèces de crabes, etc. Il y a des vidéos sur internet si vous voulez chercher.
Évidemment, j'ai cherché. Bon, les crabes hypnotisés par les câbles sous-marins à haute tension sont moins présents sur internet que Taylor Swift. Mais j'ai quand même trouvé un exemple d'expérience menée par une équipe de recherche américaine qui voulait savoir si une espèce de crabe particulière était gênée par la présence des câbles à haute tension qui relient les éoliennes offshore à la côte.
We found overall that crabs cross the cable about 50% of the time. So they were just as willing to cross the cable to get to a baited trap as not cross the cable to get to a baited trap.
Bon, cette espèce, elle avait pas l'air particulièrement hypnotisée par le câble. En même temps, je ne suis pas certain de faire la différence entre un crabe hypnotisé et un crabe en pleine possession de ses moyens. Enfin, en tout cas, ce que je retire de cette légère digression, c'est que si on devait étendre notre histoire à d'autres types de câbles, eh ben, il faudrait faire entrer plein d'autres personnages. On va donc se contenter de la fibre optique et même en conclure que finalement, eh ben, le câble fibre optique ne paraît pas hyper nocif pour la biodiversité, si ?
Et c'est pas une industrie qui pose des problèmes environnementaux majeurs à ce titre-là. Son principal problème, ce sont les émissions de CO2 liées à la circulation des bateaux. Donc c'est moins un enjeu de biodiversité qu'un enjeu d'émissions carbone.
Ah ouais, bien sûr. Il y a les émissions carbone de tous les bateaux qui servent à poser les câbles et à faire la maintenance. J'allais oublier. Cela dit, encore une fois, par rapport à tous les bâtiments gigantesques qui sillonnent les mers du globe surchargés de conteneurs ou d'hydrocarbures, hein, eh ben, les émissions carbone dues aux bateaux qui posent ou réparent les câbles, ça doit pas peser bien lourd. Néanmoins, tout à l'heure, Clément expliquait que le parc national des Calanques manifestait quelques inquiétudes face à la multiplication des câbles et de l'activité qu'ils engendrent. D'où une question toute bête, encore une. Pourquoi pas passer ailleurs ? Marseille a un littoral hyper étendu, Marseille a plusieurs ports avec des infrastructures, il y a peut-être d'autres voies possibles. Et ben, quand je lui pose la question, Clément m'apprend qu'il y a en effet une voie alternative qui est en train d'être mise en place, une voie dont l'aboutissement ne serait plus les plages du Prado, mais le port maritime de Marseille. Histoire très intéressante, parce qu'elle engage un nouvel acteur. Une boîte américaine qui s'appelle Digital Realty, qui est spécialisée dans les centres de données et qui se verrait bien concurrencer Orange dans l'accueil des câbles sous-marins à Marseille. Alors pourquoi une boîte d'Austin, au Texas, est-elle intéressée par Marseille ? Eh ben, pour comprendre, il suffit d'écouter Fabrice Cocchio, qui est le PDG de Digital Realty France.
C'est un peu le rôle qu'a eu Marseille dans l'histoire, hein, y compris depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que c'est la porte d'entrée ou de sortie donc pour l'Afrique, le Moyen-Orient, le sous-continent indien, jusqu'à l'Asie du Sud-Est et au-delà, jusqu'à la Chine hein, même, quand on veut justement interconnecter cette plaque asiatique ou indienne avec le cœur de l'Europe. Parce que Marseille ne serait pas Marseille, bien sûr, si elle n'avait pas en face l'Afrique et le Moyen-Orient, mais elle serait surtout pas Marseille s'il n'y avait pas derrière l'Interland, qu'on appelle dans notre jargon le FLAP, qui est une belle abréviation de Francfort, London, Amsterdam, Paris. Ces quatre villes-là, d'ailleurs, au passage, c'est les quatre grands aéroports européens. Et c'est pas pour rien. De la même façon qu'on échange avec certaines logiques, finalement, les hommes ou des marchandises, ben, on fait la même chose, finalement, pour la data.
Alors, quand j'ai demandé à Clément ce qui était vraiment recherché par Digital Realty, il a été un peu moins romantique que ce monsieur.
L'interconnexion possible entre l'Europe et l'Asie pour les marchés, principalement, parce que c'est ça qui intéresse les flux de données. Et cette interconnexion, elle peut se faire en différents endroits. Il pourrait y avoir Gênes, il pourrait y avoir Barcelone, mais il se trouve que Marseille est très bien située sur la route des données vers Paris et puis vers plus loin Francfort, qui sont les grosses places financières en fait européennes. Et le but, c'est de réduire la latence des échanges au plus bas possible, donc à la milliseconde.
Ouais, donc en fait, c'est moins la nouvelle route de la soie que la nouvelle route des capitaux. Ça me rappelle un épisode du Code à changer où Alexandre Lemonnier nous avait raconté l'histoire d'un pylône de l'armée belge qui avait été acheté une fortune par une boîte américaine pour y installer une antenne relais. Et le but, c'était d'accélérer encore la circulation des données financières entre les bourses de Londres et Francfort en ayant recours à des micro-ondes. Et pour ça, ben, il fallait mettre des paraboles en hauteur. D'où l'intérêt de ce pylône belge de 240 mètres, qui ne servait plus à rien, mais qui était placé à un endroit stratégique entre les bourses européennes, et qu'une société de Chicago spécialisée dans le trading à haute fréquence a donc acheté 5 millions de dollars. Et donc, j'avais demandé à Alexandre Lemonnier le gain de temps permis par l'usage des micro-ondes, et il m'avait répondu ça.
Avec les micro-ondes, entre Wall Street et Chicago, on est passé de 8 millisecondes à 4 millisecondes, à peu près. Donc on est de l'ordre des millisecondes. On peut estimer à peu près que les 5 millions dépensés pour le pylône belge, près de la frontière, leur a permis de gagner une grosse dizaine de microsecondes, donc de millionièmes de seconde.
Et donc, j'apprends avec Clément que la quête de temps pour le flux des données financières passe aussi par les mers. Ça, je savais pas. Mais tout ça ne nous explique pas l'intérêt d'une voie qui arriverait au port maritime de Marseille et non plus sur les plages du Prado.
Son objectif, ou en tout cas la façon dont elle est vendue, c'est qu'elle permettrait d'éviter le parc national des Calanques, qui commençait à ruer un peu dans les brancards, parce que les projets de câbles se multipliant, ça fait de l'activité anthropique dans l'espace d'un parc national qui vise à protéger avant tout l'environnement et à éviter le fait qu'on pose des câbles et qu'il y ait des bateaux qui circulent en permanence dans ces eaux pour faire des opérations de maintenance, etc. Donc le parc national ne voyait pas d'un très bon œil la multiplication des projets de câbles. Et de l'autre côté, le grand port maritime est venu se proposer comme alternative en proposant une route qui arrive directement dans son enceinte. Mais cette route, il faut renégocier une partie des règles d'usage de la mer qui vont concerner les câbles, c'est-à-dire les pratiques de pêche éventuelles, les risques liés aux gros ferries qui passent, qui pourraient éventuellement abîmer les câbles. Et puis par ailleurs, il faut réexplorer cette route par rapport à ces risques en termes d'épaves et de chantiers archéologiques pour les opérateurs. Ce qui fait que certains opérateurs ont privilégié, et privilégient toujours, de continuer à passer par le parc national des Calanques pour arriver au Prado, plutôt que d'emprunter l'autre route, parce que le fond de la mer n'est pas connu. L'expertise en fait, environnementale et archéologique est à faire. Et le premier opérateur qui s'est lancé dans cette aventure, c'est Facebook Meta maintenant, mais un opérateur qui a beaucoup de capitaux et qui peut se permettre d'ouvrir une route en faisant le tracé d'un câble dans des zones non définies. Et quand on regarde les cartes maritimes disponibles, c'est assez remarquable de voir que la quantité d'épaves qui est devant le grand port maritime de Marseille, pour des raisons en fait, historiques, notamment militaire, est assez impressionnante. Donc la carte est vraiment à affiner et chaque opérateur va devoir affiner cette carte.
Nouvelle route égale nouveaux acteurs. Les autorités du port maritime de Marseille, les pêcheurs de cette zone, les ferries et les épaves. Eh ben ouais, parce que dès qu'on arrive près des côtes, il y a l'histoire déposée sur les fonds marins. Et si on s'en tient à l'histoire récente, eh ben elle a été intense aux abords du port de Marseille.
Depuis trois siècles, Marseille avait été protégée des horreurs de la guerre. Son port était devenu en 1939 le premier port commercial de France. Marseille, porte française largement ouverte au trafic international, était une ville riche et joyeuse. 6 juin 1944, une aube nouvelle se lève sur la France. Hitler, dans un discours fameux, avait déclaré que les Alliés ne pourraient tenir plus de 9 heures sur les côtes françaises. Et les Allemands le croyaient. Mais quand les 9 heures furent devenues 9 jours, les Allemands eux-mêmes avaient compris. Et le 15 juin exactement, ils commençaient à miner le port de Marseille. Et le 22 août, on voyait apparaître au sommet de l'ascenseur de Notre-Dame de la Garde le drapeau rouge par lequel ils donnaient ordre à leurs troupes de commencer les destructions. D'immenses explosions ébranlèrent alors la ville. Le port tout entier sautait. Ce n'est que quelques jours plus tard, lorsque les Allemands se furent rendus, que l'on put mesurer l'étendue du désastre. L'Allemand avait détruit avec méthode. Mais la poursuite de la guerre imposait une utilisation rapide du port. Et c'est avec méthode aussi qu'il convenait d'effacer ses méfaits.
Ironie de l'histoire. Aujourd'hui, ce sont deux entreprises américaines, Digital Realty et Meta, qui participent activement à ouvrir une voie numérique dans le port de Marseille. Bref, j'ai l'impression qu'on pourrait tirer 1000 fils comme ça, sans jeu de mots, hein, et qu'on n'arriverait pas à prendre en compte tout ce qu'impliquent ces câbles. J'ai l'impression qu'on pourrait encore ajouter plein de personnages à notre histoire, et que ce serait un travail presque infini de prendre en considération tout ce que ça engage. Alors, plutôt que de faire ce travail, je préfère demander à Clémence qui, lui, le passionne là-dedans, dans cette histoire des câbles et de Marseille en particulier.
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce cas-là, en fait, c'est de voir comment des grands enjeux comme la souveraineté, l'interconnexion du monde, le développement numérique, etc., viennent refaçonner des interactions locales. On peut se dire, bon, bah voilà, on pose un câble, l'enjeu, c'est qu'il y ait de plus en plus de câbles, finalement, ils passent tous au même endroit. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à un moment, il y a quand même un alignement des acteurs locaux à faire pour permettre soit que ces projets se continuent, c'est-à-dire que lorsque le parc national des Calanques dit « moi, j'en veux plus », bien malgré tout, ça va occasionner une reconfiguration du jeu d'acteurs, des négociations, l'arrivée de la préfecture dans l'équation pour dire « bon, il va falloir trouver un nouveau compromis sur l'arrivée des câbles ». Et ce qui est particulièrement intéressant à l'échelle de Marseille, c'est qu'on voit en ce moment même se refaçonner un nouveau compromis infrastructurel. Où est-ce qu'on va mettre les câbles? Dans quelle relation avec les pêcheurs, avec le grand port maritime et avec tous les enjeux qu'il y a derrière de développement des data centers, d'occupation du foncier? Ce qui me fascine, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette matérialité du numérique, elle se fait pas toute seule. C'est pas juste les acteurs économiques non plus qui la font. Souvent, l'État arrive dans un deuxième temps, mais il y a quand même cette négociation jusqu'aux toutes petites choses qui sont comment ça se traduit à la fin, ces grandes normes, dans les petits gestes des plongeurs, des scaphandriers qui, eux, doivent mettre en œuvre la pose du câble, plus de la même manière apparemment qu'ils ne faisaient il y a 20 ans.
Bon, je pensais qu'on en avait à peu près terminé, qu'on resterait là-dessus, sur cette idée de négociation constante et aujourd'hui rejouée à l'occasion de cette nouvelle voie ouverte dans le port. Mais non, bien sûr, je n'avais pas pensé aux scaphandriers. Puisque Clément a envie d'en parler, eh ben parlons-en des scaphandriers. C'est quoi leur boulot ?
Bon, déjà, c'est pas les opérations les plus difficiles à faire pour eux. Hein. Les scaphandriers qui sont impliqués dans ces travaux-là, et ceux avec qui j'ai discuté en tout cas, ce sont des anciens militaires scaphandriers qui s'occupaient des munitions sous-marines pour les désamorcer. Enfin bref, c'est des travaux qui sont peu difficiles d'enlever des câbles, mais qui ont tout un intérêt parce qu'ils y voient une forme d'implication environnementale dans le droit de la mer, dans le respect de l'environnement, de bien poser le câble. C'est du travail bien fait, quoi. Il y a la satisfaction d'avoir posé quelque chose qui leur semble être d'intérêt public. Ça va paraître idiot, mais sans arracher les frontes des herbiers de Posignoni. Et en fait, c'est pas si simple, malgré tout, lorsqu'on a 40 kilos de matériel sur soi, de poser précisément le câble sans endommager ce qu'il y a autour.
En effet, ça aurait été lacunaire et presque absurde hein, de ne pas évoquer ceux qui sont au fond de l'eau et qui posent vraiment les câbles, qui les ancrent parmi ces herbiers qui sont si importants. Et c'est assez beau que tout ça, au final, ça engage des gestes. Et des gestes qui ont évolué en quelques années pour ne plus simplement préserver la vulnérabilité des câbles, mais aussi celle des herbiers. Et que des gens qui auparavant déminaient des munitions trouvent désormais une satisfaction à cette activité, c'est aussi assez beau. Mais je suis quand même étonné par une chose. Clément a beaucoup parlé de la vulnérabilité des câbles. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on appelle leur criticité? C'est-à-dire le fait qu'ils soient exposés à des risques sécuritaires, des risques de destruction volontaire. Je suis étonné parce que j'ai l'impression que c'est à peine une question dans tout ce dont on discute depuis tout à l'heure. Parce que bon, le fait que Marseille soit si importante pour le réseau mondial, ça en fait aussi une cible intéressante.
Il y a eu une réflexion dans les années 70 sur les risques de la concentration des câbles sous-marins à Marseille. Donc à ce moment-là, c'est l'opérateur national des postes et des télécommunications qui se pose ces questions et qui décide de diversifier les espaces d'atterrissage des câbles sous-marins en faisant des routes qui arrivent à Toulon, à Martigues et à Perpignan, il me semble. Et à la fin des années 90, la plupart de ces stations sont fermées lors de la privatisation en fait de France Télécom, donc probablement pour des questions de rationalisation économique et à l'occasion aussi d'un renouvellement technologique, c'est-à-dire qu'on remplace des câbles qui à ce moment-là étaient des câbles coaxiaux par les câbles de fibre optique qu'on connaît aujourd'hui. Donc on retrouve les mêmes alertes que dans les années 70 à Marseille, avec beaucoup plus de câbles par contre cette fois. Aujourd'hui, sur c'est un espace critique, il y a 16 câbles qui arrivent, s'il y a des actions terroristes, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, des coupures de câbles alors à proximité de Marseille qui ont occasionné apparemment des problèmes de fluidité dans la circulation de l'information jusqu'en Australie. Donc ça montre qu'il y a des effets. C'est toujours un grand mystère, tous les vandalismes sur les télécommunications. Il y a énormément de débats dans les milieux professionnels pour savoir si c'est l'extrême gauche, les Russes ou des opérateurs de gestion du réseau mécontents, parce qu'il y a toute cette armée de petites mains qui pose le réseau de fibre optique qui est très mal payé et qui parfois n'est même pas payé et qui du coup peut se venger à l'occasion contre un opérateur et un autre parce qu'ils savent où sont des points plus ou moins importants du réseau, donc ils vont simplement couper des câbles. Donc c'est un point de vulnérabilité qui est identifié. Après, la question de comment on agit à ce sujet, c'est un autre problème.
J'adore. Si on s'intéresse à la criticité des câbles, ce sont plein de nouveaux personnages qui entrent en scène. Les organisations, étatiques ou pas, qui prennent en charge la question de la sécurité, mais aussi tous les ennemis désignés, les Russes, l'extrême gauche, parce que depuis le comité invisible, on sait que l'extrême gauche n'aime pas les câbles, et, je l'apprends, les sous-traitants exploités qui pourraient faire du sabotage revendicatoire. C'est dingue. Mais ce que j'ai du mal à imaginer, c'est la gravité de tout ça. Enfin, je parle de la gravité pour le réseau lui-même. Au fond, c'est quoi le risque d'un câble qui est abîmé volontairement ou pas? À part ce que ça coûtera à l'opérateur ou au consortium qui en est propriétaire.
Si on coupe un câble, ça réorganise le trafic. Donc il y a plein d'autres câbles qui sont prêts à reprendre la route avec des logiciels qui recalculent quel chemin on va prendre pour réussir à arriver et à transmettre quand même l'information. Donc isoler un pays, en tout cas un pays européen ou un pays qui possède de multiples connexions, ça reste extrêmement difficile, voire impossible, parce qu'il faudrait taper dans beaucoup, beaucoup d'endroits en même temps. Il y a des endroits dans le monde qui sont dans des situations beaucoup plus vulnérables. Il y a une île qui, il n'y a pas si longtemps, s'est faite couper d'Internet pendant 3 mois, en raison d'une éruption volcanique sous-marine et du mouvement de terrain qu'elle a provoqué, qui a écrasé le seul câble qui interconnectait cette île au monde. Et donc, le temps de faire des opérations, de retirer du câble, cela a pris 3 mois. Donc, la géographie de la vulnérabilité n'est pas non plus égale. Et il y a de nombreux petits pays ou îles qui ne disposent qu'une ou deux interconnexions avec le monde. Après, ce qui est amusant pour les gens qui travaillent là-dessus, sur les enjeux de cette criticité, c'est tout le fantasme qu'il y a autour de l'activité de la Russie. Enfin, fantasme, qui est plus ou moins réel. Je parle de fantasme parce que dès qu'il y a une rupture de câble, il y a énormément de recherches qui se met en place sur Internet pour essayer de déterminer la plausibilité d'un coup de la Russie ou éventuellement de la Chine, notamment lorsque c'est des coupures de câble dans la mer Baltique. Et c'est vrai qu'il y a des ancres qui tombent par hasard, pile poil, en plein milieu de la mer Baltique, sur des câbles sous-marins. Donc, il y a tout un enjeu, aujourd'hui, de test, en fait, de la robustesse de ces infrastructures dans un contexte géopolitique un peu tendu.
Fascinant, toutes ces couches qui se superposent. Depuis le début de la discussion avec Clément, 2 images me viennent en tête. La première, c'est celle qui a été popularisée avec Google Earth. Ces longs zooms qui partent de l'espace, où on voit la Terre qui se rapproche jusqu'à bien distinguer les continents, puis à reconnaître une ville, et puis une rue, et puis une maison, et puis un jardin, jusqu'à quelqu'un qui lit tranquillement, allongé au soleil. Eh ben, j'ai l'impression que cette histoire de câble sous-marin marseillais, depuis le début, ça n'est qu'une histoire de zoom et de dézoom. De la concurrence entre opérateurs mondiaux jusqu'aux herbiers, et puis des poissons qui les habitent, ces herbiers, jusqu'aux tensions géopolitiques. Des zooms et des dézooms, donc, qui finissent par donner le vertige ou la gerbe, au choix. Et j'ai l'impression que réfléchir aux questions numériques, ça nécessite ce mouvement constant de zoom et de dézoom. Ça nécessite de parcourir les couches, d'aller du fond des mers où courent les câbles, jusqu'à ce qu'on voit sur nos écrans. Puis, ce qui se passe dans nos cerveaux même. J'ai l'impression que si on ne pense pas tout ça en même temps, on rate quelque chose. Donc ça, c'est la première image que produit en moi cette discussion avec Clément. Et la seconde, ce serait une notion développée par le grand sociologue et philosophe Bruno Latour. Il avait évoqué la nécessité de créer un parlement des choses, c'est-à-dire une assemblée où seraient représentés tous les acteurs et actrices d'un problème commun. C'est-à-dire que pourraient discuter ensemble les représentants d'humains, d'animaux, de végétaux, d'objets, d'éléments de la nature, d'institutions, d'états, et même des représentants d'idées, pourquoi pas. Et Latour considérait que certaines questions ne pouvaient être résolues que par ce moyen. Et ben, en écoutant Clément parler de tout ce qu'engagent les câbles sous-marins, je pense au Parlement des choses de Bruno Latour, en me disant que c'est peut-être comme ça qu'on pourrait penser, et même peut-être résoudre, hein, certains problèmes numériques. Merci beaucoup à Clément Marquet. L'article qu'il a écrit avec Lou Sellard et qui a servi de base à cette discussion est en lien sur la page web du Code à changer. À la prise de son, c'était Maxime Goudard, au mixage Basile Bocquer et Cédric Diallo. Réalisation, Joseph Lebrun et Fanny Beauhuon. C'était Le Code à changer, un podcast original de France Inter.